vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite le bonjour pour cette rencontre au titre improbable, de mon point de vue, amour insaisissable, oui, j'ai la peine à le prononcer. Il y a deux beaux romans d'amour aujourd'hui, de solitude et d'errance. L'un est balzacien, on va dire ça comme ça. Il dit avec une sensibilité extrême les gens, les petites gens, les quartiers de Paris, la campagne, les oiseaux, enfin de drôles d'oiseaux en l'occurrence, et la solitude des êtres. Ce roman a pour titre « Repose-toi sur moi ». Il est paru chez Flammarion. Serge Joncourt, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Une fenêtre est un roman, fenêtre sur cour, des portes, une vitre, 48 heures de la vie d'une femme de 30 ans qui se perd de vue. C'est un roman brut, déroutant, singulier, sans doute un peu inattendu aussi, et c'est Bellevue. Il porte la signature de Claire Berest. Bonjour.
Bonjour.
Bellevue, Claire Berest, je vais commencer avec vous, est le récit d'un basculement. Bellevue est un hôpital psychiatrique, le lieu, je cite, où l'on se retrouve quand on s'est perdu de vue. Et pour dire ce basculement, il y a une écriture qui témoigne du souci, du besoin de nommer les choses, d'où une certaine brutalité, crudité de langage et d'écriture. Le personnage principal de votre roman est une jeune femme de 30 ans. L'action se déroule au moment de son anniversaire. Citation, 30 ans, c'est donc cela la trentaine. Une fêlure sans éclair, un empoisonnement discret, un meurtre sans préméditation. Je m'aperçois que certains mecs d'un soir sont plus jeunes que moi. À présent, le sexe est plus disponible, l'amour devient fuyant. À l'origine, il y a un parti pris romanesque, me semble-t-il. C'est 48 heures dans la vie d'une femme au bord de la crise de nerfs. On se met dans sa tête et c'est cela que vous livrez au lecteur.
Oui, disons que le sujet romanesque qui m'appelait pour ce projet, pour ce livre... Finalement, là, j'étais pas du tout important, que ce soit une femme de 30 ans, ça c'est peut-être une coquetterie, ça aurait pu être une femme, un homme de 17 ans, de 87 ans, peu importe. Ce qui m'intéressait, c'est que tout le monde, dans toutes les classes sociales, dans tous les pays, dans tous les milieux, et donc dans tous les deux sexes, peut, un beau matin, alors qu'en vitrine, tout va bien, littéralement exploser, sans prémisse. Et en se perdant de vue soi-même, c'est-à-dire en ne sachant pas qui a pris les commandes de ce corps et de cette tête qui est la nôtre à ce moment-là. On ne sait plus qui est à bord, qui est le capitaine, et on va s'engouffrer dans la brèche. Je dis « on » puisque je parle pour tous ces possibles. Et on s'engouffre dans la brèche en se disant « on verra jusqu'où ça va ». Et finalement, mon personnage Alma, qui est donc, j'ai choisi une femme de 30 ans, parce que pour le coup, c'était un motif romanesque. Les trentenaires et les femmes de 30 ans, on peut penser à Balzac, vous disiez balzacien, c'est un motif littéraire. Et donc j'avais envie de le revisiter aussi, au goût de 2016, voilà. Donc c'était le projet romanesque de départ.
Qu'y a-t-il qui a inspiré votre roman? Qu'est-ce qui l'a inspiré?
C'est une bonne question. Tout simplement une sensation aiguë d'une atmosphère qui est la nôtre aujourd'hui dans les années 2010-2020. C'est-à-dire que je pense que ce... Alors il y a plein de mots que les gens peuvent utiliser... Burn-out, le pétage de plomb, c'est quelque chose qui dit quelque chose de notre époque, et précisément aujourd'hui. C'était une sensation que j'avais, et j'avais envie d'aller explorer cette sensation. L'autre chose aussi, c'est que j'avais envie de réfléchir à l'hôpital psychiatrique, parce que c'est quelque chose qui fait peur. On a tous en tête les images de vol au-dessus d'un nid de coucou ou ce genre de choses. Finalement, ce lieu d'enfermement, les gens qui s'y retrouvent se posent la question de où est la normalité. Est-ce qu'elle est dans l'hôpital psychiatrique ou est-ce qu'elle est à l'extérieur?
En vous lisant, on a le sentiment plutôt que la normalité est à l'intérieur.
Disons que dans ma construction, oui. C'est vrai que les moments calmes, les moments où on respire dans le livre, ce sont les moments où Alma est à l'hôpital psychiatrique, et que les moments peut-être plus déroutants, comme vous pouviez le dire, plus violents, plus crus, sont les 48 heures qui ont précédé cet enfermement et elle est donc à Paris. Et donc je voulais poser cette question-là de... Pour elle, tout d'un coup, c'est une respiration, le lieu où l'on enferme les fous, pour être caricatural. On se pose la question de sur quel bord on est, où est la folie. Et je l'ai appelée Bellevue parce que je trouvais ça très beau, mon hôpital psychiatrique, mais c'est aussi de quel côté on regarde la vue, comment on la regarde, où se trouve la fenêtre et de quel côté on est. Et que peut-être que le basculement, c'est de briser une fenêtre qui est toujours en nous, mais qu'on garde soigneusement fermée, et que qu'est-ce qui se passe si on fend la fenêtre.
Précisément, l'idée de la fenêtre.
Précisément, c'est-à-dire.
Oui, je veux dire précisément l'idée de la fenêtre lorsque vous avez commencé à écrire.
Très importante. Oui. Ah oui. C'est un peu la métaphore tout le long du livre, parce que la fenêtre, c'est la transparence, c'est ce qui nous permet de voir de l'autre côté, mais c'est aussi quelque chose qui peut se révéler dangereux, parce que si elle se brise, elle blesse, elle coupe, et il y a aussi l'idée de la coupure. Quand on bascule, l'idée, c'est qu'on coupe tout, au sens propre comme au sens figuré, puisque mon Alma va aller très loin même dans la violence envers elle-même. Et donc oui, pour moi, la fenêtre, c'était très beau. Vous disiez fenêtre sur cour, il y a un peu de ça. C'était une image que j'avais envie d'explorer avec tous ses sens possibles.
Et donc votre personnage, dans votre roman, passe finalement d'un lieu à l'autre. Il y a une sorte de mouvement de va-et-vient, de flux et de reflux.
Oui, il y a vraiment passé d'un côté de l'autre. On peut aussi penser au miroir, passer de l'autre côté du miroir, toutes ces métaphores qui sont... très littéraires, qui sont dans la littérature, mais quand on la prend au pied de la lettre, cette expression qui est assez belle, assez poétique, qu'est-ce qu'on risque quand on passe de l'autre côté? Et c'est aussi l'idée, j'en parlais tout à l'heure avec une amie auteure, c'est rigolo, l'idée de la disparition. Est-ce qu'on peut et comment peut-on disparaître à soi-même et pourquoi? Et cette idée de la fenêtre, c'est on se voit mais sans plus se toucher non plus. Enfin voilà, à l'infini, même si le livre est très concret, hein, c'est pas du tout c'est l'histoire d'Alma, mais c'est vrai que ce thème-là des deux côtés, du doublement, du fait qu'on a toujours en soi cette possibilité de partir en incendie, tout le monde, à tous les âges, ça peut se ça peut se présenter sous des formes plus ou moins violentes. Moi, j'ai décidé que mon Alma, elle allait aller très loin, mais beaucoup de gens peuvent avoir comme ça des passages dans leur vie où ça va se faire par des petits détails, mais c'est la même violence, en tout cas. C'est de se poser la question fondamentale, mais pourquoi je suis là, qui je suis et pourquoi je fais ce que je fais, voilà. Et je pense qu'on est tous traversés par ces instincts de questionnement qui sont fondamentaux.
Avant que tout cela n'arrive, pourquoi est-ce que Alma, qui vit avec Paul... le matin, regarde un extrait à la télévision du procès de Klaus Barbie.
Alors, pour remettre dans le contexte, effectivement, mon Alma, le jour où elle va basculer, c'est le matin de ses 30 ans, et elle a imaginé une fête incroyable qu'elle aurait pu faire, alors elle s'est posé la question, quelque chose d'intimiste, ou alors complètement grandiloquent, très snob, ou alors pas du tout, et puis en fait, le jour arrive et elle n'a rien prévu. Et elle n'a invité personne. Et elle est restée coite devant cette situation d'anniversaire, cette convenance aussi sociale, où parfois on fait les fêtes pour les autres plus que pour soi. Et donc c'est le matin de ses 30 ans, et c'est vrai que le basculement se fait progressivement. Il y a une étrangeté qui s'instaure chez elle, et elle erre un petit peu dans son appartement en regardant tous les objets qui sont si familiers, qui sont le décor de sa vie, et toute cette familiarité est très très étrangère, et tout pose question. Et... elle regarde le procès de Klaus Barbie sans le son, en écoutant par-dessus de la musique, d'une part parce qu'elle le connaît par cœur et parce que tout d'un coup, il y a tellement de vide et tellement de blanc dans sa tête qu'elle le comble par des violences extérieures qui peuvent prendre plein d'aspects. Et là, c'est cette violence, pour elle, symbolique de ce procès-là, qui symbolise la guerre. Après, c'est son histoire à elle, c'est l'histoire d'Alma. Mais c'est vrai que voilà, j'installe ce moment-là où une personne commence à faire des petites choses étranges qui sont anodines, mais qui, en fait, sont les prémices de l'éruption du volcan, finalement.
Alma, donc, qui vit en couple avec Paul, Alma, on va le dire, elle écrit, elle enseigne, mais elle écrit.
Oui, alors, c'est une trentenaire qui vit depuis plusieurs années avec un monsieur procureur qui s'appelle Paul. Elle va se poser tout au long de son errance la question de pourquoi la personne avec qui on habite depuis si longtemps, qu'on a l'impression de connaître mieux que soi-même, un beau matin se révèle être un parfait étranger. Mon personnage est une jeune femme qui se cherche un petit peu, qui est en même temps professeure dans une boîte à bac huppée, qui est en même temps un peu serveuse, et qui a publié un livre un peu par hasard et qui a eu un succès dont elle a été la première étonnée. Et donc, on ouvre sur cette personne, mais qui est nous tous, qui est tout le monde, finalement. Elle représente tout le monde.
Et c'est quelqu'un de très, sur le fond, de très émouvant, parce que c'est quelqu'un qui est vulnérable. C'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, passez-moi l'expression, jette sa vie par la fenêtre.
En tout cas, dans cette histoire-là. Encore une fois, par la fenêtre. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ça arrive, elle ne le sait pas. Elle part dans cette errance en ne sachant absolument pas où elle va. Et elle va simplement faire tout ce que ses pulsions lui demandent de faire. Et qu'on a tous des pulsions de tous ordres, et qu'on les réfrène, ou alors on les contrôle, on les maîtrise. Et ben elle, la première pulsion, elle va dire « qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et puis, elle a d'ailleurs ce jour-là un rendez-vous professionnel. Et on sait tous que ce sont des moments dans la vie où on est très codifié, on est très codé, qu'on essaie de donner, avoir à l'autre le meilleur de nous-mêmes, ou quelque chose, encore une fois, une vitrine qui n'est peut-être pas nous, pour décrocher le potentiel de ce travail-là. Et elle a gardé, c'est le jour de son anniversaire, mais elle a gardé ce rendez-vous professionnel. Et de fait, c'est à ce moment-là que la bascule va se faire. Elle va se rendre, elle est déjà un petit peu étrange, elle fait déjà des choses un petit peu étranges, mais elle va quand même se rendre à ce rendez-vous professionnel. Elle va tenir, et c'est un moment assez long dans le livre, le face-à-face entre ces deux personnes. Et cette demande du rendez-vous professionnel d'être au mieux de soi-même, d'être fort, va la faire complètement basculer et péter les plombs. Et elle va saboter son rendez-vous. Et à partir de ce moment-là, tout est ouvert et ça va aller très loin.
Ce rendez-vous professionnel, c'est avec Thomas B. Il y a une très jolie définition du personnage qui a tellement de boucles que je n'aurais plus jamais besoin d'aller à la mer pour voir des vagues.
Oui. Aussi, ça pose aussi la question que, en permanence, et c'est aussi l'idée de la pulsion, on juge les gens qu'on ne connaît pas sur 1000 choses en une seconde. On rencontre quelqu'un, et une femme, un homme, on pourrait dire, cette personne pourrait être mon ami, pourrait être mon frère, pourrait être un amant, pourrait être un ennemi. Et on a toujours ça en nous, cette foule de choses qui pourraient nous lier ou nous délier. Et donc, il y a, pour ce rendez-vous, effectivement, on est dans la tête des deux personnages. On est dans la tête d'Alma, qui est donc en train de péter les plombs, et on est dans la tête de ce jeune éditeur, elle l'appelle la comète, parce que lui, il est très connu, il a énormément de succès, il a eu un succès très jeune, et donc elle a une image assez caricaturale aussi de lui, de ces gens qui réussissent, à qui tout sourit, qui sont séducteurs, charismatiques, et qui a l'air lui aussi d'aller très bien, finalement. Et c'est, voilà, elle juge à sa vitrine, à lui, et je voulais m'amuser à être dans la tête de ces deux personnages au même moment, pour voir entre la vitrine et l'intérieur les fossés qui se produisent. Et c'est vrai, voilà, je m'amuse sur la rencontre de Thomas B. et d'Alma, qui va être le déclencheur de tout ce chaos.
Vous saviez tout cela ? Ou ce sont les personnages qui, d'une certaine manière, vous échappent et quelque part... vous voyez ce que je veux dire ?
Oui. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Après, ça, c'est propre à chaque écrivain, la manière dont... Mes personnages, comme je pense comme beaucoup d'écrivains, au moment où on décide de construire leur histoire, de construire leur psyché, leur passé, leurs envies, etc., ils finissent par nous habiter comme des cousins. C'est-à-dire qu'on les connaît bien, mais on ne connaît pas tous deux. Et puis au fur et à mesure, on rentre en eux. Mais moi, je sais que je peux me perdre dans l'écriture, c'est-à-dire à un moment laisser échapper quelque chose et parfois relire après en me disant « Ah, c'est marrant, cette phrase, je ne me souvenais pas de l'avoir écrite. Elle est bien ou alors elle n'est pas bien. » Mais voilà, je parle cette impression d'échapper là dans l'écriture. Mais mes personnages, ils sont toujours avec moi et non, ils ne m'échappent pas. Et voilà, j'ai accompagné Thomas et je l'ai construit. Alors oui, bien sûr, à un moment, il vous échappe aussi. C'est une vraie question, on pourrait en débattre des heures, je pense, autour d'une bonne bouteille. Je suis sûre que Serge Joncourt a plein de choses à dire aussi sur le sujet. Non, c'est une bonne question.
Ouais, quelle est la force de vos personnages, Serge Joncourt ? Je veux dire, si vous maîtrisez leur destinée, leur avancée dans le roman, ou est-ce qu'au contraire, c'est eux qui vous entraînent ?
Oui. Non, mais c'est bien de me passer la parole, parce que Claire, il faut qu'elle respire quand même. Et j'osais pas intervenir. Mais comment dire ? Non, mais enfin, en même temps, c'était intéressant, brillant, mais je me suis dit, il faut qu'elle se repose.
Je me repose sur...
Oui, enfin, ouais. Ben absolument.
Oui, repose-toi voilà, sur moi, ouais.
Mais ce qu'elle a dit est juste, c'est que c'est, les personnages, c'est un peu au départ comme des cousins, c'est-à-dire qu'on est liés, mais on ne sait pas très bien qui ils sont, finalement. Il y a comme une intuition, et à force, quand on passe du temps, moi, pour écrire un roman, je mets... Oui, j'arrive. Un an et demi, quoi. Et à force de fréquenter ces personnages, on commence à les connaître comme des frères. Enfin, bon, on est même... Enfin, moi, je suis un peu... Vous savez, parfois, les comédiens disent « J'ai eu du mal à rentrer dans le rôle, et après, je ne pouvais plus en sortir. » C'est un peu fou de dire ça, mais je comprends, moi. Il y a un moment où on prend presque, en tout cas moi, des attitudes de mes personnages. Je peux parfois grossir si le personnage est gros. Enfin, non, mais je vous assure, j'ai une amplitude physique qui fait que je peux passer de 110 à 85. Enfin bon, c'est affolant, mais c'est comme ça.
Oui.
Surtout que celui-là, il est un peu gros. Enfin, il est grand. Quoi. Enfin,
bref, il est grand, oui.
Ouais. Donc, les personnages, quand on arrête le roman, quand on, je ne sais pas pourquoi, un jour, on se dit, tiens, ben... Ça y est, le roman est fini. Quoi. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de mal à les quitter. C'est-à-dire que, évidemment, maintenant, le livre existe. Des gens, peut-être, vont le lire avec un peu de chance. Mais bon, ils vont exister ailleurs. Mais moi, je ne suis plus dans cette intimité quotidienne. Parce que souvent, on nous demande, quand écrivez-vous ? Ça, c'est la question que, certes, vous n'avez pas posée, mais enfin, qui est assez courante, récurrente, et que je comprends. Et souvent, les auteurs répondent de telle heure à telle heure, ou plutôt le soir, dans le train, je ne sais pas. Et en fait, moi, j'ai le sentiment d'écrire tout le temps, c'est-à-dire que j'y pense. Écrire un roman, c'est comme avoir une double vie, une vie parallèle, hein, on dit ça, une double vie, oui. C'est-à-dire il y a la vie là, au quotidien, puis il y a une autre qui est ailleurs, qui est possible, et qu'on va rejoindre, vers laquelle on galope dès qu'on rêvasse un peu. Quoi. Et donc, écrire un roman, ça se fait d'une façon un peu... permanente. Et ces personnages, eh ben, oui, ils ont été très proches de moi pendant un an et demi, puis là, ils se détachent un peu. Et peut-être que si j'arrive un jour à écrire un autre roman, ben, je vais en fréquenter d'autres qui sont peut-être très différents. Peut-être qu'il y aura juste une femme, le personnage principal, un homme, je ne sais pas encore. Enfin, bon, c'est une question un peu intéressante et un peu fascinante et un peu trouble quand même, le rapport de l'auteur à ses personnages. C'est pour ça que je comprends les auteurs qui écrivent très directement sur eux-mêmes, ce qu'on appelle l'autofiction. Parce qu'au moins comme ça, ils sont... C'est même pas question de double vie, ils sont... enfin, je veux dire, c'est la même, quoi. Quelque part, c'est peut-être plus confortable. Il faut être un peu fou pour écrire un roman, je crois, quand même. Enfin, fou au sens... Il y a un dose... Oui. Il y a de la folie pas psychiatrique, mais quand même, parfois, ça fait un peu peur, hein.
Que faites-vous des personnages de vos anciens romans ? Ils reviennent parfois, tapent à la porte ?
Alors, ça peut, d'une certaine façon, parce que j'ai cette chance d'avoir quelques adaptations au cinéma, et parfois même j'ai travaillé moi sur le roman précédent qui s'appelait L'écrivain national, voilà, c'est ça, oui. L'écrivain national. Bien. Il y a 2 ans, on m'a demandé à moi d'écrire le scénario parce que. Plusieurs réalisateurs ont commencé de l'écrire et puis finalement, il y a un moment, ça ne va jamais parce que c'était assez drôle. Le précédent, c'était un peu humoristique. Hein. Enfin bon, je crois, je ne suis pas sûr. Mais... Et donc, il y a des réalisateurs comme Anne Fontaine, très, très grande réalisatrice, mais qui avait du mal avec cet humour et du coup, elle a laissé tomber le projet. Mathieu Amalric aussi, enfin, il y en a comme plusieurs comme ça. Donc j'ai dit, je vais l'écrire moi parce que ce producteur est un peu perdu, un peu déboussolé, puis ça l'a rassuré, que je lui dise « oui, je vais l'écrire ». C'est pas grand-chose de rassurer l'autre, hein, franchement. Enfin, c'est pas grand-chose, il faut l'écrire quand même. Ça a apaisé la situation. Donc, d'une certaine façon, il faut que je revienne dans ce personnage d'il y a 4 ans, enfin, c'est-à-dire le moment où je l'ai écrit, qui était un personnage très différent, qui est un peu... Enfin, je le dis maintenant, un peu maladroit, un peu dépassé par les événements, alors que celui-là il contrôle toujours la situation. Donc, d'une certaine façon, ça aura une influence sur moi. Je vais redevenir un peu plus gaffeur, peut-être, un peu plus maladroit, drôle peut-être, c'est pas gagné, mais enfin bon, je vais me replonger dans autre chose, quoi. C'est pour ça que je vais peut-être même la façon de s'habiller, vous savez, ça c'est quand même moi j'ai de la famille à la campagne, en milieu rural, et quand j'y vais, je suis habillé en parisien, en citadin, on va dire, quoi. Le bâton long blanc. Et il y a un moment, quand les premières 24 heures, ça ne colle pas, parce que quand les chiens viennent vers moi avec le pantalon blanc, ça coince, mais en même temps, ils ne comprennent pas c'est comme si je ne les reconnaissais pas, je les repousse un peu. Donc du coup, je me change, quoi. Et le fait de se changer fait qu'on est presque assis d'une façon différente. On se pose dans une voiture d'une façon différente. On empoigne après le chien, je le prends à bras le corps, alors que en arrivant, je le repoussais. Enfin bon, la façon de s'habiller, ça peut conditionner aussi. Donc, moi, les personnages, je suis jamais très loin de mes personnages. Et je crois que Claire a repris son souffle.
Oui, relation avec le personnage, avec Alma.
Moi, je pense que les personnages, ils restent avec nous comme un peu ces albums qu'on feuillette de temps en temps, qu'on a très très peur de perdre, même si on les regarde jamais, un peu ce genre de choses-là. Après, en revanche, moi, il y a comme un personnage un peu indéfini qui prend plein de vie, qui reste toujours avec moi, parce que de fait, sans vraiment l'avoir décidé, j'ai donné le même prénom à l'héroïne de Bellevue qu'à celle d'un autre roman que j'ai écrit, mon deuxième, qui s'appelle L'Orchestre Vide. Elle s'appelle Alma aussi.
Oui.
Et en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'ai mis Alma, et après je me suis dit, mais j'avais pris le même prénom. Et c'était pas un choix de ma part, comme si, je ne connais pas d'Alma, mais comme s'il y avait une Alma qui, elle, me suivait à la trace, et que sans doute elle incarnera peut-être d'autres personnages, même si ce n'est pas une suite, les deux romans n'ont rien à voir. C'est simplement peut-être que c'est un peu cette histoire de double aussi dont parle Serge Joncourt. Moi, peut-être qu'un de mes doubles, c'est une Alma qui est en même temps gentille, en même temps un peu terrifiante, et qui se balade dans mes livres. Voilà. Après, il y a plein d'autres personnages. Parfois on oublie, c'est drôle comme nos livres deviennent étrangers à nous-mêmes quand on les a écrits, et si on doit les refeuilleter parce qu'on a une intervention ou quelque chose comme ça, on repense à des personnages comme, ah oui, comme ce vieux voisin de mon enfance, voilà. Il y a vraiment cette idée-là, c'est un peu une famille, je trouve, les personnages, c'est notre famille à nous, et puis il y en a qu'on perd de vue, et puis il y en a qu'on garde près de notre cœur.
Et puis il y a des personnages dans votre roman, par exemple, comme Julien Gracq, il est partout dans l'appartement de Thomas B. En ce qui concerne Alma, lorsqu'on la retrouve dans ce lieu d'enfermement en hôpital psychiatrique, elle emmène avec elle les poèmes saturniens de Verlaine, et elle verlainise même en plus.
Elle verlainise, oui. Oui. Elle invente ce verbe, enfin elle invente, elle est en hôpital psychiatrique, donc elle est en camisole chimique, donc son cerveau est ailleurs. Mais la seule chose qu'elle parvient à avoir envie de faire, c'est de lire ce livre qui était le seul livre qu'il y avait dans son sac au moment où elle a été arrêtée et emmenée dans un hôpital psychiatrique, qui sont les poèmes saturniens de Verlaine. Et donc elle les lit à longueur d'heures et de temps, parce que dans les hôpitaux psychiatriques, on perd la notion du temps. Il n'y a plus d'horloge, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus de queue, il n'y a plus rien. Et donc elle verlinise, elle essaye de les réciter à haute voix, et elle se rend compte qu'elle les oublie au fur et à mesure où elle les lit, et donc elle recommence comme un cycle comme ça qui ne s'interrompt jamais. Et effectivement, mon personnage de Thomas B est obsédé par Julien Gracq,
oui.
Parce que oui, c'est une comète, tout lui réussit, mais lui, il a des failles aussi très profondes, et il a une adoration, une admiration sans borne pour l'écrivain Julien Gracq, qui était un homme très simple, un professeur de géographie qui a d'ailleurs refusé le Goncourt. Après, on peut se poser la question, est-ce que refuser un prix aussi prestigieux, est-ce que c'est pas une posture, etc. Mais pour le coup, Julien Gracq était, je pense, un homme qui avait un besoin de solitude. Et donc, lui, qui a accepté tous les honneurs à 20 ans, il a l'admiration de la personne qui n'est pas du tout comme lui. Et effectivement, mes deux personnages ont chacun des auteurs qui les accompagnent, parce que je pense que les auteurs qu'on ne connaît pas, qu'on lit, mais on ne les connaît pas personnellement, sont un peu comme les personnages pour les écrivains, c'est-à-dire qu'ils sont des gens de notre famille. Les écrivains qu'on aime, ils sont avec nous tout le temps. Et d'ailleurs, je crois qu'il ne faut pas trop rencontrer les écrivains qu'on aime, parce qu'on est souvent, je pense, déçus, parce qu'on les a incarnés autrement, et qu'ils nous, voilà, ils nous aident dans les coups durs, ils nous accompagnent dans les bons moments, etc. Ou alors, on peut les détester. Mon personnage de Thomas B., en même temps, déteste Julien Gracq de tous les choix qu'il a fait. Contrairement à lui, il a cette coquetterie ou cette obsession de réciter sa lettre de refus du Goncourt dans sa douche, comme ça en essayant de trouver le bon ton, le ton qui pourrait vraiment rendre les mots de ce refus, de ce prix littéraire, voilà. Et ça, donc c'est sa névrose à lui, c'est ses problèmes à lui. Mais je pense que, bon, après, tous les auteurs sont avant tout des lecteurs, hein, donc on a tous notre galerie d'auteurs qui sont pour nous indépassables, très importants, et qui nous accompagnent tout autant que nos personnages dans la vie de tous les jours.
Il y a Racine aussi ?
Oui, il y a Racine aussi. Il y a plein d'auteurs, hein, c'est plein de fantômes, en fait, dans mon livre.
Oui,
oui, c'est en fait un moment quand on est dans les pensées d'Alma, quand on essaye de suivre pourquoi cette personne va à ce point-là prendre un virage, on se rend compte qu'elle, à
et
l'intérieur...
Quel virage, hein.
Et quel virage. Dans ces 48 heures où elle perd de plus en plus pied dans la réalité, lui arrive en tête tellement de souvenirs. Pareil, qu'elle ne contrôle pas. Alors ça va être des souvenirs familiaux, de son enfance, des moments importants dans sa vie. Elle va se souvenir d'un repas avec son père qui était si important, où elle lui avait demandé, mais... quand est-ce que tu as arrêté de croire en Dieu et pourquoi ? Elle se souvient de ça et elle se souvient aussi des choses qu'elle a apprises en classe. Pourquoi certaines choses restent accrochées dans notre mémoire et pas d'autres ? Et de fait, elle pense à deux vers de Racine qui, parmi toutes les choses qu'elle a lues, tout d'un coup lui reviennent comme quelque chose d'entêtant. Et ce que je voulais, peu importe les vers de Racine, mais ce que je voulais montrer, c'est pourquoi à un moment, on est une somme de tellement de choses, de tellement de souvenirs, de tellement d'apprentissages qui font notre magma, notre substance, et pourquoi cette chose-là, à un moment, déborde ou non. Tout cet assemblage un peu dadaïste de choses très bizarres qui font l'unicité de chaque individu.
Je veux citer les deux vers de Racine parce qu'ils sont très beaux, hein, et qu'affectant l'honneur de céder le dernier, l'un ni l'autre ne veut s'embrasser le premier. La Thébaïde. Dans votre roman, Serge Joncourt, tout compte. Dans votre écriture, je veux dire, les expressions, les attitudes, la démarche des personnages, les silhouettes, les lieux, un cimetière, un voyage en TGV. Parlons de l'un des personnages centraux, parce qu'il y en a beaucoup, hein, dans votre roman. C'est donc Ludovic, un garçon plutôt solide, s'habille au Monoprix.
D'ailleurs, c'est la seule scène un peu drôle, je crois, du roman. C'est quand il vient de la campagne, il était agriculteur et il est obligé de vivre à Paris parce que voilà, la ferme, il la laisse à sa sœur et l'agriculture, ça marche pas fort. Bon, bref. Et il vient à Paris travailler dans le recouvrement de dettes.
Ça, vous l'avez observé. L'agriculture, ça marche pas fort, vous l'avez observé. Parce que vous avez beaucoup sillonné la France. Je sais que vous connaissez très très bien Paris, les quartiers, mais dans votre roman, il y a aussi, comment dire, entre guillemets, l'arrière-pays.
L'arrière-pays, oui. Moi, j'y ai ma famille. Oui, je les observe. Enfin, moi, j'ai de la famille, qui sont agriculteurs. Et c'est vrai qu'il y a un moment, là, ça pose la question du passage d'une génération à l'autre. Alors que des fermes, parfois, étaient dans les familles depuis des générations, depuis toujours, on ne sait pas bien, en fait. Il y a un moment, là, récemment, où se pose la question de continuer ou pas. Quoi. Et c'est cruel, parce que laisser tomber sa terre, c'est dur. Enfin, bref. Et donc, lui, il vient à Paris, et il est habillé avec les habits que lui achetait sa femme ou qu'il trouvait là-bas. Enfin, bon, bref, il ne se posait pas trop la question, hein, franchement. T-shirt. Alors qu'à Paris, on lui renvoie un peu le fait qu'il n'est peut-être pas habillé comme un citadin, quoi. Et donc, il va vouloir acheter à Monoprix un pantalon ou une chemise. Seulement, le problème, c'est qu'à Monoprix, ça s'arrête au... Enfin, pour les hommes, en tout cas, ça s'arrête au 48. C'est comme s'il était impossible... C'est comme si, à partir du moment où vous faites plus de 48, vous n'êtes pas à votre place dans Paris-Centre, parce que rien n'est prévu pour vous, quoi. Et donc, à partir de là, les vendeuses vont venir l'assister, l'aider dans la cabine d'essayage. Il est un peu costaud, donc ça bouge un peu dans la cabine. Le vigile lui-même vient prêter main forte. Enfin bon, ça devient comme ça un peu cocasse, quoi. Mais il n'empêche qu'il ne trouve pas sa taille. Bon, et il va acheter des chaussures neuves, vernies, parce qu'il a rencontré cette femme, il faut dire quand même. Et à partir de là, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on change un peu les habits, on change un peu soi-même. Quoi. Vous regardez ma chemise, je vois.
je regarde vos yeux.
C'est Monoprix. Non, moi, je m'habille pas mal, enfin, pardon de cette confidence, mais je m'habille pas mal à Monoprix, parce que j'en ai un à côté, quoi. Je suis un peu stressé par le fait d'aller essayer des vêtements. Ce qui revient à essayer des vêtements, c'est se déshabiller chez des gens qu'on ne connaît pas. Autant ça peut être supportable une fois par an chez le médecin, mais pas dans les boutiques de mode, quoi. Et puis par Internet, je ne sais pas si vous avez fait l'essai, des pantalons, des chemises sur Internet, j'ai dû en acheter... Je pense que j'ai passé un quart de mon temps à renvoyer des retours de marchandises qui ne me vont pas, sachant qu'on va me demander le bon de justification, le justificatif de... C'est d'un compliqué. Et ça me coûte cher, parce qu'il faut renvoyer. Enfin bon, là, pardon, je digresse. Mais il n'empêche que ces éléments-là, je les prête après à mes personnages, quoi. Et le fait de ne pas trouver des vêtements à sa taille dans son magasin dans Paris, parce que ça, c'est quand même une question, c'est vrai. J'en ai parlé, moi, aux vendeuses. Qui, ben oui, ça s'arrête au 48. Mais je dis, mais comment on fait quand on fait 54? Et ben, elle me dit, il y a Internet, il y a d'autres boutiques où il y a les boutiques grande taille. Ben, c'est vexant, enfin, je veux dire, c'est comme si c'était un monde à part, quoi. C'est pas pour vous, hein. C'est ailleurs, en province, en banlieue. Bon. Et lui, il subit ça parce que lui, quand on arrive à Paris, ce qui est son cas, à 40 ans, 45 ans, quoi, on n'est pas habitué à se déplacer au milieu des... Paris, c'est quand même une ville assez rude, hein. Ne serait-ce que les couloirs de métro, les correspondances, quand on remonte un couloir de correspondance à Concorde à 18h, d'une façon permanente, on est dans l'anticipation de sa trajectoire, sachant qu'il y en a qui arrivent par là, on se dit, tiens, je vais rentrer un peu l'épaule, là. Et en fait, ça se fait inconsciemment, ça. Tiens, je replie mon sac à dos, attention, je ne vais pas le mettre sur le... Il y a toute une sorte de slalom géant, ou spécial, permanent, que chacun vit inconsciemment. Moi, je me suis mis à les observer, les autres. Et parfois, on peut se résoudre à se dire, je trace, je regarde par terre. Il y a tout un jeu de regard comme ça. Ça, j'aime le répéter parce que une étude américaine, elles sont toujours américaines les études, a démontré que le simple fait de croiser quelqu'un dans la rue est un stress. Et donc, à Paris, vous vous rendez compte. Et ça, on s'en rend bien compte quand on marche tout seul sur un chemin de campagne. Moi, ça m'arrive pas mal. Bon, on est détendu, quoi. Il n'y a rien à faire, hein. Il suffit que, à 600 mètres plus loin, on voit une silhouette qui vient, quelqu'un qui marche vers vous. Bon, on sent tout ce qui devient compliqué. Est-ce que je le regarde? Je fais semblant de ne pas le regarder. Est-ce que je regarde ailleurs? Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je lui dis bonjour quand je le croise? Est-ce que je fais semblant de ne pas le reconnaître? Enfin, le monde se complique avec un seul. Alors imaginez quand vous en mettez 300, 600, 1000 dans un couloir de métro. C'est fou, quoi. Et ce Ludovic se rend compte de tout ça, lui, comme un néo-parisien.
Et son travail, donc, il va voir des gens, parce qu'il tient beaucoup au contact, hein, Ludovic, il ne fait pas ça par téléphone, il va voir des gens qui doivent donc des sommes d'argent à telle société, etc. Donc il fait du recouvrement de dettes. C'est son métier de tous les jours.
Ah ben, c'est un métier qui existe, je dirais même de plus en plus, mais des agences de recouvrement. Le plus souvent, ils travaillent par téléphone parce que c'est plus pratique, mais en fait, c'est moins performant. Et ça confine un peu au harcèlement. Ça revient à appeler quelqu'un d'une façon permanente, sur son portable, sur son lieu de travail, dans sa famille. C'est une sorte de chasse à courre. Le recouvrement de dette, c'est un métier un peu cruel, mais en même temps, il faut voir aussi que... De l'autre côté, il y a parfois des artisans, des bijoutiers, des que sais-je, qui sont eux-mêmes sur le point de déposer le bilan parce que des clients ne les ont pas payés. Quoi. C'est d'ailleurs la première scène du roman. Il débarque chez une femme, comme ça. Il ne sait pas bien sur qui il va tomber. Il tombe sur une femme de 80 ans, par là, dans un pavillon qui est un peu fané. C'est pas terrible comme ambiance. Quoi. Et puis, il sent bien qu'elle doit 600 euros, quoi, bon, pour la bague de fiançailles de sa petite fille. Donc il faut qu'il se reconcentre. Ça ne sert à rien de faire 110 kilos dans ces cas-là. Il faut juste parler calmement et puis essayer de convaincre.
Oui, il est plutôt gentil.
Il est bienveillant.
Il est bienveillant.
C'est quelqu'un qui rassure. C'est un rassurant.
Mais il est bienveillant tout au long de votre roman.
Ah ben oui, je crois, oui.
Ouais. Ce n'est pas un personnage qui change, hein. C'est un personnage, il est bienveillant.
Oui, il y a des gens qui ne changent pas tant que ça. Enfin, je veux dire, non, mais ça existe aussi, les gens bienveillants. Enfin, vous savez, des gens, sans être bienveillants, des gens qui rassurent. Voilà, ça, oui. C'est une sorte de dimension qui, moi, m'interroge beaucoup, que j'observe beaucoup chez les autres, parce que moi, je suis... Évidemment, vous me tendez un micro, je parle, mais d'une façon générale, moi, je suis quelqu'un qui me tait, j'aime bien écouter, moi. Et j'écoute les intonations, même entre auteurs, là, dans un salon, si vous voulez. Vous avez 300 auteurs, combien ? 450 ? 300, je ne sais pas. Qui sont là dans un... Ils ont tous en commun d'avoir écrit un livre. Mais ils ont en commun d'être dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, une chambre qu'ils ne connaissent pas, des gens face à eux qu'ils ne connaissent pas. Enfin, ils sont un peu... déboussolés, on l'est tous. Quoi. Enfin, il y a un moment, ça devient presque un peu saoulant, quoi, tous ces gens qui passent. Et puis quand ils passent sur les lamelles du parquet, hein, ça soulève un peu la chaise du côté gauche, et puis paf, après du côté droit. Donc il y a certains moments, moi je me disais, tiens, en fait, on est parti sur le lac, là. Mais non, c'est que les gens passent. Quoi. Et puis d'un seul coup, vous rêvassez un peu, quelqu'un vous parle. Ah, on s'est vu il y a 4 ans, on s'est vu il y a 6 ans. Oui. Ah oui, ça y est.
Mais c'est incroyable parce que vous êtes attentif, justement, je le disais tout à l'heure, que tout compte. C'est-à-dire l'expression, la démarche de quelqu'un, la silhouette. Il y a notamment, il y a plein de scènes comme celle-là dans votre roman, mais la scène, par exemple, où Ludovic va au cimetière. Ah parce oui. que sa femme est morte, d'accord ?
Il y a 2 ans, oui.
Ouais. Cette scène, elle est d'abord bouleversante, mais elle est extraordinaire parce que, quelque part, il y a une description complètement minutieuse du personnage jusqu'au moment où il va jusqu'à la tombe, ce qu'il pense, ce qu'il fait. Ça fait, je crois, 2 pages, je ne sais plus maintenant. Mais il y a cette volonté pour le lecteur d'être emmené vraiment. Et donc, tout compte, tous les petits détails comptent.
Absolument. Ah oui, ça c'est bien dit, ça.
Je ne sais pas, mais enfin, je vous le dis parce que je l'ai ressenti.
Non,
comme
mais
ça.
C'est bien. Non, mais c'est vrai parce que cette scène-là, j'y tiens beaucoup parce que elle vient pour moi un peu en écho à une scène de Camus dans le Premier Homme quand il va voir son père au cimetière et c'est au bord de la mer comme ça. Il n'arrive pas vraiment. Il retrouve la tombe de son père qui n'a pas vraiment connu. Enfin bon, il y a du bruit. Il est un peu distrait. Il n'arrive pas à se concentrer. À se représenter que son père est là. C'est pas... Et puis, à un moment, il voit les dates et il réalise qu'il est plus vieux que son père. À l'âge où son père est mort plus jeune que lui. Mm-hmm. Enfin, et d'un seul coup, ça le... autour, plus rien n'existe. Il est concentré là-dessus, sur cette idée-là. Et il se met à penser à son père pour de vrai. Là. Et il y a des choses comme ça. Dans la vie, à tout moment, on est plus ou moins réquisitionné par l'environnement. On est un peu... chamboulé par l'environnement, et on est un peu dénaturé, on n'est pas vraiment soi. Après, je suis observateur dans la mesure où mes sages... En fait, on l'est tous, mais on ne s'en rend pas compte. Moi, la différence, c'est que j'en suis très conscient. Je sais que ça m'a... Enfin, je vous ai regardé tout à l'heure, vous tous assis, il n'y en a pas une qui est assis de la même façon, alors que c'est la même chaise. Et qu'en gros, le projet de la position assise, il est de poser ses fesses sur un tabouret avec un dossier, parce qu'une chaise n'est jamais qu'un tabouret avec un dossier, c'est rien de spectaculaire. Et pour autant, en fonction de notre personnalité, notre physionomie, chacun va se faire d'une façon différente. Et tout ça, à un moment, ça cause à l'autre. Quoi. Ça, quand on rentre dans une boulangerie, moi, je sais d'avance si on va être sympa avec moi ou pas. Quoi. Il y a une attitude... Et cette attitude-là, elle est d'autant plus importante dans un métier comme le sien, puisqu'il passe sa vie à rencontrer des gens qu'il ne connaît pas pour leur demander l'argent qu'ils doivent. Donc c'est quand même... Psychologiquement, il faut être un peu aiguisé, quoi. Il faut être un peu fin, sinon ça tourne mal. Quoi.
À l'origine, quel était votre projet de roman ? Vous aviez un projet précis ?
Oh ben moi, j'avais... Non, moi j'ai des personnages...
Donc Ludovic, Aurore, évidemment très important comme personnage, les corbeaux, Ce sont aussi des personnages, des demoiselles, de sang et d'autres.
Les personnages, c'est un peu ce que disait Simenon, c'est de... Écrire un roman, c'est prendre des personnages et les pousser au bout d'eux-mêmes, c'est-à-dire les sortir un peu de... les dénaturer, quoi. Donc moi, j'ai pris ces deux personnages qui sont dans le même immeuble et puis qui vont finir par se rencontrer.
Oui, sauf qu'ils vivent pas dans le... ils vivent dans le même immeuble, mais il y a un côté d'immeuble chic, qui a été rénové, etc. C'est là que vit Aurore avec son mari ou son compagnon et ses enfants. Et puis notre ami Ludovic qui vit... dans l'autre immeuble, qui est un peu moins chic.
Absolument, oui, la partie non rénovée.
Ouais. Voilà, oui.
Ça existe à Paris, c'est la façade côté rue rénovée, puis au fond, les escaliers, il n'y a pas d'ascenseur, et puis c'est un peu miteux, quoi. Ben oui.
Ouais.
Ça existe, c'est une forme de cohabitation, coexistence. Quoi. Et puis peut-être le point de départ, ça serait le fait d'être... moi, je vis dans un immeuble un peu comme ça, dans le Marais, une cour carrée, quoi, et un jour... un couple en ménage, des Italiens, qui avaient à tout prix envie d'être sympa. Bon, on veut bien, je comprends. Pourquoi pas, après tout. C'est jouable. Hein, et puis, ils nous ont, les uns après les autres, invités chez eux. Donc, et un soir, je me suis retrouvé invité à dîner donc chez eux. Et juste en face de mon appartement, où j'habite, moi, où j'avais laissé la lumière, c'était l'hiver, quoi, et... le fait de voir depuis la fenêtre d'en face de chez moi, mon chez moi, ça faisait... je ne le reconnaissais pas. Ça me semblait un appartement très différent de celui dans lequel je vis. Alors ça, du coup, j'étais fasciné, je suis resté à la fenêtre. Les Italiens me disaient de venir à table parce que les pâtes étaient froides. Enfin bref, je m'en foutais un peu de leurs pâtes. Elles étaient bonnes, hein, cela dit. Mais... et en même temps, je guettais de me voir rentrer. Enfin, il y avait, comment dire, c'était obsédant, quoi. Donc j'ai passé le dîner à regarder chez moi en attendant de savoir à quelle heure j'allais rentrer. J'y suis rentré, finalement. Mais quand je suis rentré, je ne me suis pas vu. Enfin, je veux dire, je ne me suis pas... et ça, ça a été une sorte de mise en abîme toute bête. Hein. Je ne sais pas si c'est l'expérience vous est arrivée de voir votre chez-vous depuis l'autre côté de la rue, quoi. Ou de l'autre côté de la cour, c'est quelque chose qui est spectaculaire. Et je l'aurais jamais imaginé. Enfin, je veux dire, on a une vue, on a tous une vue, enfin, une belle vue, ou pas. Et à partir de là, on en reste là. Jamais on se pose la question de savoir ce qu'on voit de... et c'est ce qui a un peu déclenché la mécanique, quoi. Je me suis dit, ils vont habiter face à face. Alors après, il y a la question des arbres. Parce que les arbres, évidemment, jusqu'à novembre... c'est des vernis du Japon, c'est des arbres qui gardent leurs feuilles assez loin dans l'hiver, jusqu'en décembre même. Donc tant qu'il y a les arbres, on ne voit pas bien. Enfin, mais quand les feuilles tombent, d'un seul coup, là, on est vraiment face à face, quoi. Et puis aujourd'hui, il me semble, je n'ai pas fait d'études là-dessus, les gens mettent de moins en moins de rideaux. Avant, il y avait toujours des rideaux, des sortes de gaz de nylon blanc, là, hein, qui faisaient qu'on ne voyait pas chez l'autre. Maintenant, il y a une sorte de mode de la transparence. Un peu comme en Hollande, ça c'est... moi j'ai vécu un peu en Hollande, pas longtemps, mais un peu quand même, il y a longtemps. Et en fait, le soir, je passais mes soirées à marcher, pourtant il faisait froid, à passer devant les maisons et voir ces maisons un peu similaires, avec à chaque fois un décor différent, des couleurs différentes. Et puis surtout, les gens étaient très ouverts, enfin, ils s'offraient en spectacle, comment dire, une sorte de... alors que nous, encore français, on se cachait un peu. Hein. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui m'ont amené à ce livre. Hein. Moi, on me pose une question, j'y réponds, mais pas que.
Mais pas que, oui. Et Claire Berest, est-ce que à un certain moment, votre personnage d'Alma, notamment, est-ce que ce personnage vous a fait peur à vous ?
Est-ce que Alma m'a fait peur ?
Oui, est-ce que...
ah, c'est marrant, comme il y a des questions qu'on se pose jamais quand on est épouse, on paraît très très bizarre. Non, en fait, Alma fait des choses qui sont terrifiantes.
Que vous pourriez faire.
Que tout le monde pourrait faire, ouais. Mais elle ne me fait pas peur, vraiment. Et je pense que c'est le cas pour tous les gens qui tout d'un coup agissent de manière un peu désordonnée, un peu excessive... un ami qui se met à beaucoup boire, une connaissance, il se murmure qu'il paraît qu'il prend de la drogue, enfin, tous ces comportements qui, en fait, ce sont les comportements qui font peur ces gens. Voilà, ce sont des... Une personne, c'est une vie, c'est mille... Une vie, c'est mille vies, c'est mille histoires, c'est mille moments, c'est... Et donc, j'espère justement que quand... que les gens comme ça qui se désaxent, parce que finalement on dit des fous qu'ils sont désaxés, les gens qui se désaxent, il faut pas perdre de vue justement que ce sont voilà leur âme qui s'interroge à un moment, mais après ça peut aller très loin, des gens peuvent, ça peut être fatal, ça peut être, ils peuvent faire du mal à d'autres personnes. Je ne minimise pas, mais il faut pas mélanger voilà la personne et les actes de cette personne à un moment donné. Et il faut se garder d'avoir trop peur de nos frères et sœurs humains, finalement. Enfin, voilà, on est tous quand même un peu pareils, et voilà. Donc, non, j'ai jamais eu peur d'Alma. Mais Alma fait des choses qui font peur. Mais sans doute, peut-être, en premier lieu, à elle-même. Hein. Elle doit se terrifier aussi à elle-même.
Contre elle-même, oui. Elle est en situation de rupture d'elle-même.
Complètement. Il y a vraiment, effectivement, l'idée de rupture. Et en même temps, elle s'accompagne dans cette rupture. C'est-à-dire que... Il y a quelque chose de l'ordre de la joie du carnage, qui, je crois d'ailleurs, le titre d'un roman de peut-être Yasmina Reza, c'est ça, hein, qui est un très beau titre. La joie du carnage, quand on cède à des pulsions qui sont un peu malfaisantes, qui sont destructrices, il y a un premier temps, on se dit oulala, oulala, et puis il y a cette joie-là de mettre tout par-dessus bord. Il y a la joie de passer en voiture dans le jardin fleuri magnifique de notre voisin qui fait ça parfaitement, et il y a cette idée-là, il y a quelque chose dans la destruction de l'ordre du soulagement aussi, et puis ou dans la rupture, quand on quitte ou qu'on se fait quitter par quelqu'un avec qui on a eu une grande histoire, c'est drôle parce que je parlais avec un ami auteur là hier qui a vécu en Russie, bref, et qui disait que les Russes, comme nous, on dit, j'ai eu une aventure avec cette personne, ils disent, j'ai eu un roman avec cette personne. C'est génial. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Bon, alors, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Il y a un moment aussi où il y a une forme de jouissance, de foutre le feu, d'avoir aucune convenance. À un moment, Alma, elle se retrouve à marcher pieds nus dans Paris parce qu'elle a perdu ses chaussures, et puis elle prend un café, du champagne, elle mélange les deux parce que ça va plus vite, et voilà, et tout d'un coup mais elle s'accompagne tout le temps dans cette rupture. Les gens qui se perdent de vue à un moment, c'est comme s'ils se regardaient de loin, c'est comme ce que disait Serge Joncourt, c'est comme s'ils étaient de l'autre côté et ils voyaient leur fenêtre, sauf qu'ils sont à l'intérieur de la fenêtre, donc ils se voient, donc ils s'accompagnent, et en même temps il y a cette très grande étrangeté. Pour le coup, je vais dans votre sens, j'ai dû arroser les plantes de mes voisins pendant les vacances d'été, donc ils m'avaient donné les clés, ils sont en face, et donc tous les jours, ils ont énormément de plantes, donc c'était un peu empoisonné comme service, parce que j'ai passé un temps fou dans leur jardin, et donc j'ai passé beaucoup de temps à regarder cette maison en face, enfin cette façade, et toutes ces fenêtres, c'est comme si je voyais tout pour la première fois, c'était très bizarre, et vous avez tout à fait raison, c'est un peu un choc. Alma, c'est comme si elle voyait de l'autre côté, elle était dedans, qu'elle peut plus stopper cette personne qui est en face et qui fait n'importe quoi, qu'elle la regarde avec beaucoup de sympathie, en se disant bon courage ma vieille, parce que là, je ne sais pas ce qui va t'arriver. Donc voilà, je ne sais pas non plus si j'ai répondu à la question.
Ouais, mais... Même s'il lui reste la force d'être absente.
Oui, c'est vrai que c'est une phrase que j'écris à un moment.
Oui.
Il me semble que c'est au début, quand elle dit, il y a un moment où, quand on commence à aller mal, mais qu'on ne le sait pas soi-même, mais que personne ne le sait, on est sollicité en permanence. Est-ce que tu veux aller à un anniversaire de machin? Est-ce que tu veux aller, je ne sais pas moi, il y a une nouvelle expo, il faudrait acheter un cadeau pour l'enfant d'un tel qui vient de naître. Enfin, il y a plein de sollicitations. Et un des prémices, je pense, des gens qui commencent un petit peu à basculer, c'est que tout d'un coup, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent pas aller à l'anniversaire de machin, ils ne peuvent pas aller à une expo, ils ne peuvent pas aller faire une course. Et il ne leur reste plus que le courage d'être absent avant de disparaître, avant de créer cette rupture qui est la disparition. Il y a encore cette force de oui, et de ne pas faire. Et d'avoir, voilà, c'est juste le courage de l'absence qui est juste avant le basculement.
Après Bellevue, Alma va revenir.
Alors, donc là, on parlait de la fin du livre. J'ai J'ai comment? Non, non, je dirais non, bien sûr, je ne dis rien, je dis rien sur la fin. Ça m'amusait, ça m'intéressait de faire 48 heures dans la vie d'une femme. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avant, on le oui. sait quand elle pense à des choses d'avant, mais et on ne sait pas vraiment ce qui se passera après. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait 48 heures, c'est un peu biaisé, puisqu'il y a ces moments d'hôpital psychiatrique et on ne sait pas vraiment sur quelle période, on ne sait pas combien de temps. Mais l'idée, c'est que j'avais envie que chaque personne s'empare d'Alma et prenne en charge cette fin de « je ne dévoile rien », parce qu'il y a un peu un retournement, tout ça. Bon, oui. Moi, je pense que quand on tombe comme ça, c'est souvent pour... j'emploie l'image de traverser la rue. Voilà, c'est difficile. Puis on traverse la rue, puis il y aura notre rue, puis il y aura d'autres paysages. Donc, moi-même, je ne sais pas bien, mais je ne pense vraiment pas, si quelqu'un a envie de le lire, c'est pas plombant, la fin, voilà. Je pense que c'est aussi lumineux.
Ce que je voulais, la question que je voulais vous poser, c'était la suivante. C'était, effectivement, est-ce qu'elle va traverser la rue ou pas? Ça, on ne va pas le raconter. Mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que dans un autre roman, ce personnage va ressurgir?
Ah, tout à fait. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai des personnages comme ça, qui, à Sceaux et à Gambade, oui. qui passent dans mes romans. Et Alma, c'est une figure qui est un peu... comme une sœur et qui prend plein de visages. Donc probablement qu'on retrouvera Alma dans d'autres livres, peut-être plus jeune, peut-être plus âgée, peut-être en homme, voilà. Mais effectivement, l'Alma, oui, elle va m'accompagner, ça c'est certain.
Ok, alors des romans, des livres, c'est aussi, ça me paraît assez essentiel, l'écriture, hein, une écriture. Et dans ces genres de rencontres, généralement, on en parle assez peu. Et on fait assez peu entendre, en tout cas, la langue d'un roman. C'est bien que j'ai demandé à nos deux invités aujourd'hui, à Serge Goncourt et à Claire Berès, de choisir un bref extrait de leur roman pour le lire, pour que vous entendiez un peu, je ne sais pas comment dire, la musique, le silence de leur roman. Serge Goncourt, peut-être.
Ah, dis donc. Ça, alors. Oui, non, la langue... Peut-être lire le dernier paragraphe. Non, c'est pas. Oui. C'est une bonne question. Hein. C'est une bonne question. Oui, je vais lire. C'était le deuxième chapitre, en fait. Le premier chapitre est sur Aurore, qui fait une visite donc pour un recouvrement de dette. Et puis là,
Aurore qui est donc styliste, on l'a pas dit. Hein.
Ouais. Alors là, c'est le premier chapitre sur Aurore. C'est la première fois qu'on la voit. Autour d'Aurore, il y a plein de monde. Trop peut-être. Une panne informatique paralyse toutes les caisses. Chacun attend dans sa file d'attente avec son panier ou son caddie rempli, sachant que le mi-tour est impossible, à moins de s'en aller et de tout planter là. Seulement, ce soir, on mangerait quoi? Aurore jette un coup d'œil sur son téléphone. Il capte, mais ne peut rien pour elle. Les caissières flottent dans ce temps mort inhabituel, déboussolé par ce silence. Depuis que les caisses se sont tues, il n'y a plus les bips qui tintaient de toutes parts, il n'y a plus aucun mouvement de tapis roulant, plus le moindre bruit. Les gens se regardent sans réaction. Le manager, du Monoprix, non, dit que tout va se remettre en marche dans 3 ou 4 minutes. Il tient un talkie-walkie dans une main et dans l'autre une boîte de chocolat qu'il offre aux clients pour les faire patienter. Aurore se demande si ces 3 ou 4 minutes de perdu seront irrémédiables et en quoi elle pourrait dévier le cours de sa vie. Une suée la prend, mais elle ne s'énerve pas. Pourtant, elle n'en peut plus de ce temps qu'on lui vole, de ce temps qu'il lui faudra encore pour rentrer, pour ramasser ses courses, puis rentrer dans ce froid, traverser sa cour, une fois de plus traverser sa cour. Cet incident est à l'image de sa vie dernièrement. Depuis septembre, ses journées sont faites de ça, de temps qu'on lui vole, de temps qu'il ne lui appartient pas. Bon, alors, ça, c'est donc Aurore au Monoprix, dans une... Encore une fois, ça fait... je ne suis pas sponsorisé, pourtant, mais c'est une situation qui m'est arrivée, moi. Et c'était avant les fêtes, et dans un Monoprix souterrain, comme ça. Et on ne se rend pas compte, mais il y a une sorte d'effervescence dans un Monoprix, les gens bougent, je ne sais pas. Et puis, il y a surtout ce mouvement des caisses, ouais, surtout avant les fêtes, hein, dis donc, ça y va, ça consomme, et... Il y a eu une panne informatique, et j'étais dans ma file d'attente, là, et j'ai pensé à mon personnage, je me dis, tiens, il pourrait lui arriver ça, parce que là, vraiment, on était tous complètement perdus. Pourtant, on était pas loin, dans notre quartier, mais il y avait une sorte de... sur tous les visages, qu'est-ce qu'on fait ? On a passé une demi-heure pour remplir son caddie, on ne va pas tout laisser tomber. Les caisses, il n'y a pas d'informations. Les caissières elles-mêmes ne savaient plus quoi faire de leurs mains. Elles ne pouvaient pas se montrer rassurantes, comme je disais tout à l'heure, parce qu'elles n'avaient pas d'infos. On se disait, ça va durer jusqu'à minuit, demain peut-être. Il va falloir passer la nuit là, au moins il y aura à manger, mais quand même, ce n'est pas confortable. Quoi. Et puis ce manager est arrivé, quelqu'un que j'avais déjà remarqué auparavant dans ce magasin, je ne savais pas que c'était le manager, avec un talkie-walkie et des mon chéri qui l'avaient ouvert comme ça, et qui tendait, c'était pas bête, hein, comme, je ne sais pas s'il a appris ça en formation, une sorte de premier secours, quoi. Il nous tendait des mon chéri pour nous apaiser, quoi, et il disait dans 3 ou 4 minutes, et ça. Et moi je me dis 3 ou 4 minutes, mais au nom de quoi je perds 3 ou 4 minutes, bon, une panne informatique, c'est... Et cette scène, je l'ai prêtée à mon personnage, Aurore, qui elle-même, dans une situation de vie comme ça, elle est styliste, elle a sa boîte de mode, c'est-à-dire que c'est une petite chef d'entreprise, elle a 6 employés, seulement elle se rend compte qu'elle est envahie par les problèmes, et puis par cet associé qui est un peu, peut-être, pas très net, enfin bon, tous des règles, et puis ses enfants qui grandissent, des jumeaux, et qui lui prennent de plus en plus de temps, avec aucune reconnaissance, et puis son mari qui... pour qui tout va bien, mais quand même, il est de moins en moins là. Enfin bon, il y a un moment, si vous voulez, ça, le fait de planter là 3 ou 4 minutes, c'est comme s'il y avait le temps de jeter un œil au panorama de sa vie, quoi. Alors, je vous rassure, c'est une fin heureuse. Les caisses sont reparties. On n'a jamais été aussi heureux de payer, de sortir sa carte bleue. C'est vraiment... Alors, c'était un bon... Comme quoi, hein, il en faut peu parfois dans la vie.
Le choix du titre, Repose-toi sur moi, c'est un choix sensible, sentimental
Ah oui, ah ben non, enfin je pense pas, moi je ne sais pas bien. Non, pour moi c'est plutôt, si vous voulez, il y a un moment, c'est une sorte de phrase définitive qu'on peut dire à l'autre, qu'on n'entend pas souvent. Quoi. Repose-toi sur moi, j'ai un problème d'argent, je ne sais pas, repose-toi sur moi, la voiture... Moi je suis d'une... une sorte d'atavisme, je suis d'une famille un peu comme ça, agissante, qui rend service, enfin tout bêtement, c'est pas par générosité particulière, c'est peut-être aussi une façon d'exister. Moi j'aime bien le reproduire à minima, même dans mon petit immeuble, là, je sais pas, quand quelqu'un a une fuite d'eau, un truc, je suis moyennement bricoleur, mais j'ai du matériel, bon, et parfois on peut, oui, il s'agit de dépanner, quoi, c'est des gens, et de dire ça, repose-toi sur moi, c'est... D'une certaine façon, c'est plus qu'une preuve d'amour. Enfin, je peux intervenir très directement sur toi. Et ça, je le ressens assez peu, finalement. Par contre, quand ça arrive, c'est miraculeux. Bon. Voilà, je l'avais noté sur un bout de papier. Moi, j'ai toujours un problème pour trouver des titres, parce qu'il faut dire quand même, c'est vrai, trouver un titre, c'est une façon définitive de donner une première impression sur son roman, alors qu'on a mis des mois à l'écrire. Et le titre, c'est terriblement cinglant, c'est définitif, on ne peut plus en changer. Quoi. Donc il faut en être bien sûr. Et je me suis dit à un moment, à force de le voir, ce titre, c'est le titre qui me disait à moi, repose-toi sur moi, t'en fais pas. C'est le bon titre. Quoi. Donc voilà, tout ça est très rassurant finalement.
Merci. Un extrait de Bellevue, Claire.
Alors. On nous a dit ça juste avant, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout regardé, on n'avait pas choisi d'extrait en avance, donc on est toujours un peu pris de court. Moi, je n'avais pas feuilleté mon livre depuis presque sa sortie, et donc tout d'un coup, j'ai l'impression que c'était le livre de quelqu'un d'autre, c'était bizarre. Du coup, j'ai fait simple, je vais prendre juste la première page, parce que c'est la porte d'entrée, et que voilà. Se faire sauter pour une femme concrétise l'idée du sexe d'une manière curieusement passive. Se faire sauter pour une femme induit une prise en charge du plaisir de l'autre, cette incontournable envie chez l'homme de jouir, encore et encore. Un train dans un tunnel qui se dirige sans alternative possible vers la sortie. Un besoin de se soulager, de jeter quelque chose hors de soi. Sont-elles si douloureuses ces réserves de sperme entassées pour qu'accompagnent systématiquement leur expulsion et leur perte un cri superstitieux de ravissement ? Je sens précisément que je n'assiste pas qu'à une satisfaction, mais bien plus que j'assiste à un soulagement. Les femmes, assistantes de ces chutes répétitives, aides-soignantes rodées, sans vergogne. L'orgasme de la femme vient plus tard. Ce n'est pas de suite une affaire d'État, non. L'affaire, c'est qu'il bande et qu'il éjacule enfin à un moment donné. Et cela tranquillise. Je suis de ce genre de femme que tranquillise la petite mort de l'autre, la petite mort de l'homme, qu'il soit de passage ou qu'il soit envisageable de l'aimer. Avant toute chose logique, c'est à ça que je pense en me réveillant. Avant même de me demander où je suis, d'entreprendre l'effort de me souvenir de l'endroit où je me trouve, je pense simplement à cette ambiguïté de la jouissance. Je songe aux hommes que j'ai aidés à jouir et comme ils m'ont attendri dans leur fugitif et intense désarroi post-coïtal. C'est un petit peu brutal comme entrée, mais c'est notre Alma qui se réveille, qui ne sait pas encore bien où elle est. Elle va se rendre compte qu'elle est donc dans un hôpital psychiatrique.
Merci. Est-ce que vous souhaitez intervenir, poser une question ou deux questions, Claire Beurre? Oui, madame. Attendez, on va vous donner un micro, parce que comme ça, on vous entendra mieux.
Voilà.
Vous avez parlé de la difficulté de trouver un titre. Je voulais poser la question à tous les deux. Comment on trouve le nom de ces personnages? Et Alma, c'est bon, d'où ça vient? Mais comment on donne un nom à ces personnages?
Alors, pour Alma, je pense un peu la même chose que Serge Joncourt pour le titre. C'est très difficile, un titre. Je vais venir au nom du personnage, mais je sais que moi, très souvent, je mets un nom pour le fichier du tout début. Le premier qui vient, alors Bellevue, alors mon premier roman, c'était Mikado. Et qu'on s'habitue tellement qu'à un moment, eh ben, il existe ce titre. Et il est trop difficile de se dire, alors, ce livre, qu'est-ce qui le résume? Donc c'est vrai que c'est, voilà. Pour les personnages, moi, c'est souvent un petit peu des signes, des symboles. Je ne vais pas essayer de me dire, cette personne, comment elle pourrait s'appeler? C'est tellement difficile de donner une identité, même pour ses propres enfants. Je sais que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un nom pour ma fille, par exemple, parce que de quel droit je peux donner l'identité de quelqu'un qui ne m'appartient pas? Pour Alma, tout simplement, je trouve que c'est un très joli prénom, mais je demande à une de mes sœurs qui venait d'accoucher de sa première fille et qui avait appelé sa fille Tessa, qui est un très beau prénom, et je lui dis, t'as hésité avec autre chose? Et elle me dit, bah, j'ai hésité avec Alma. Donc c'était il y a plusieurs années, c'était au moment de l'orchestre vide, et j'ai dit, bah, très bien. Et j'étais en train de fomenter le projet de mon deuxième roman, et ben c'était Alma, parce que tout d'un coup, c'était cette petite personne qui aurait pu être la fille de ma sœur et qui, en fait, sera autre chose. Voilà. Parce que je crois qu'il ne faut pas trop choisir, il faut que les prénoms viennent à soi et qui s'imposent. Donc, pour Alma, c'était ça.
C'est compliqué, les prénoms, d'ailleurs. C'est tellement compliqué, les prénoms. Moi, si je n'ai pas d'enfant, c'est juste parce que je n'ai pas trouvé les prénoms. D'ailleurs, par contre, pour les personnages, c'est plus facile. Mais je pense qu'il faut surtout éviter de... Enfin, il y a parfois des gens que l'on connaît, qui nous sont proches. Si on prend le prénom de quelqu'un qui nous est très proche, notre frère ou je ne sais pas qui, enfin, il y a un moment, ça va contaminer. Là. Donc moi, j'essaie toujours de prendre des... Enfin, j'essaie. Il se trouve que c'est toujours des... Je ne connais pas d'Aurore dans mon environnement proche. Ni de Ludovic, voilà. Je pense que c'est en partie ça, puis parce qu'il me semble que Aurore connote un peu quelqu'un d'un peu élégant. C'est mon a priori, quoi. Et puis Ludovic, alors j'en connais pas, donc je peux pas. Ça me semble donner quelque chose de nécessairement le diminutif, ça va être Ludo. Je pense que tous les Ludovics, on les appelle Ludo, et Ludo, c'est assez carré comme ça, ça a l'air solide, et puis il y a Ludo, c'est un peu ludique, enfin bon, il y a quelque chose, et puis voilà, Ludovic, j'en connais pas. Moi je m'appelle Serge, donc voilà, il n'y a pas de diminutif à Serge, ou ça marche pas, donc du coup, comme il n'y a pas de diminutif, on m'a toujours appelé Sergio, ou Gigi, enfin c'est très curieux ce que les autres font de vos prénoms, quoi. Je veux dire, Claire, c'est propre, c'est net, c'est impeccable, Claire. Donc Claire, oui, il n'y a pas de diminutif non plus, et puis on n'en rajoute pas non plus. Voilà, ça s'impose. Et oui, c'est vrai que Claire, ça donne nécessairement, enfin là je parle pour moi, mais ça renvoie à une forme de personnalité un peu propre, transparente, limpide, enfin, vous voyez, c'est... Alors, peut-être que toutes les claires ne le sont pas, mais...
Comme quoi, les prénoms trompent. Hein. Oui. Avant de vous remercier, quel est le premier lecteur ou lectrice lorsque vous avez terminé d'écrire?
Ben, madame qui veut poser une question.
Juste une question. Vous présidez un prix littéraire, le prix Stanislas. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos motivations justement pour présider ce prix? Il s'agit, je crois, uniquement de primo-romanciers.
C'est un prix c'est la première édition d'un prix qui se lance, non?
Exactement.
Voilà, donc d'une certaine façon, il n'a pas encore de prestige. J'espère qu'il en aura au fil des années. Et on me l'a proposé parce que... Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un de disponible. Et puis,
c'est rare pour des auteurs, en général.
Non, il y a plusieurs auteurs, sans doute. Mais et puis moi, j'ai une forme de curiosité toujours pour les premiers romans, parce que faire un premier roman, c'est quand même poser une sorte d'acte dans sa vie, comme ça. Alors, il y en a qui ont 22 ans, il y en a qui en ont 60. Enfin, c'est... Moi, je trouve ça toujours admirable. Pour publier mon premier roman, ça m'aurait pris 15 ans, moi. Donc, du coup, ça relève presque de l'exploit, ce qui arrive. Donc, je trouve ça... C'est très respectueux comme démarche. D'ailleurs, en France, on est... Enfin, je parle de la France, de la rentrée littéraire française. Il y a une bienveillance et on accorde une place au premier roman. Et c'est une catégorie en soi, quoi. Et puis après, j'ai aussi moi la curiosité de voir comment on arrive à régénérer une narration, une langue. Et pour le coup, là, cette année, il y en a quand même pas mal qui sont soit dans la langue, soit dans les... Et puis après, il y a des formes de figures un peu traditionnelles, le roman historico-contemporain, le roman... Il y a des tas de gens qui arrivent, qui viennent de tous les univers possibles. Une auteure ici, hein, qui est coréenne et corésienne. Enfin, Elisa Chua du Sapin, qui a écrit un très beau roman, un peu gazeux, un roman un peu qui tient, on ne sait pas bien comment. On se dit, comment c'est fait, ça c'est... Et elle a 22 ans, apparemment. Comment... D'où ça vient? Enfin, bon, c'est quand même... Et donc, il y avait cette curiosité-là. Après, c'est quand même, entre guillemets, un travail, parce qu'il a fallu en lire pas mal. Et puis après, c'est une responsabilité, parce que c'est déterminé que celui-là est meilleur que les autres. Ça, c'est vraiment injuste, hein, mais... On a essayé d'arbitrer de façon harmonieuse. Et c'est un prix qui s'est tenu d'une façon très correcte et totalement transparente. Et ce n'est pas toujours facile, ça, parce que je sais que chez Flammarion, mon éditeur, ils étaient un peu amers. Je n'ai pas retenu aucun de leurs premiers romans. Ils en avaient plusieurs. Voilà. Et très égoïstement, ça me permet, moi, de comprendre qu'est-ce que c'est d'être dans un jury, d'être président d'un jury, et à quel point il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des jeux d'influence, et comment on y résiste ou pas, quoi. Voilà.
Merci.
Voilà, j'aimerais juste pour conclure...
Peut-être question.
Alors, encore une question, et après, je suis obligé de conclure après.
Merci bien pour vous exposer, madame et monsieur. Mais en vous regardant, monsieur Serge, il y a quelque chose qui me pénètre... de vous, là, c'est ce vide. Vous avez peur d'un vide, mais vous avez peur que quelqu'un remplisse ce vide. Votre promenade en solitaire et votre attente au marché, là, il y avait un vide et vous le remplissez, vous avez peur de ce vide. Mais aussi, vous avez également peur de quelqu'un qui vienne remplir votre vide.
Là, c'est une très forte question. Oui. J'allais presque m'engager à vous y répondre dans 2 ans si je republie. Oui, ben le vide, si j'écris, c'est peut-être aussi un peu pour ça, quoi. C'est pour le peupler, ce vide. En même temps, il ne me fait pas peur. Je le recherche un peu. Moi, je suis quelqu'un d'un peu solitaire et un peu paisible. Bon. Solitaire par essence, on ne le décide pas vraiment, quoi. Mais parfois, oui, je le retiens. Vous êtes psychanalyste. Pas particulièrement, non, pas du tout. Non, très bien. Un peu médium, oui. Mais tout à fait. Mais comme quoi, ça dit bien que vous voyez, vous avez une perception simplement en me regardant, en m'observant, et puis réciproquement, on comprend des choses de l'autre, quoi, on les voit. Et ça, moi, je m'en sers. C'est mon seul talent, je crois, dans la vie. C'est pour ça que j'en fais des livres, c'est d'essayer de discerner les autres. Et voilà. Mais le vide est là, il nous est commun.
Merci. La dernière question, c'était... Quel est le premier lecteur ou lectrice de vos livres, si tant est qu'il y en ait un au-delà de l'éditeur, je veux dire.
Moi, c'est très très simple. C'est l'homme qui partage ma vie. Et okay. Voilà, c'est le premier lecteur, c'est le premier de tout le temps finalement. Je crois que voilà.
Le vide absolu. Il y a personne. Je le montre à mon éditrice un jour.
Et, oui.
C'est vrai, je sais pas pourquoi. C'est pour pas. Je sais pas. C'est pour pas qu'on me dise que c'est pas bien ou que ça va pas. Et puis c'est pour pas mettre mal à l'aise. Enfin bon, bref. Mais c'est une bonne question, hein, ceci dit. Mais c'est vrai. Ouais, y a personne. Ouais.
Merci beaucoup à Serge Joncourt et à Claire Berest, en rappelant donc les titres de ces livres, Pose-toi sur moi et Bellevue. Et je crois que vous allez dédicacer là encore maintenant. Voilà, donc dans un petit moment, vous allez pouvoir les retrouver sous la tente. Merci à vous d'être venus. Bonne fin de week-end. Merci.